Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette 20e veillée aux gloires. Nous avons commencé en 2007, nous sommes à la 20e. Qui est Seigneur? C'est la question de ce soir. Nous rapportons des confidences, des témoignages d'artistes, d'écrivains, bref, de penseurs qui ont loyalement réfléchi à cette question. Ils viennent d'horizons divers, vous les entendrez, nous entendrons un orthodoxe, deux protestantes, une juive. Chacun d'entre vous se sentira plus ou moins en affinité avec telle ou telle de ces confidences qui nous renvoient à nous-mêmes la question, pour moi, qui est le Seigneur? Ce Seigneur, les chrétiens l'ont compris, il vient de là-haut et il vient d'en bas, de parmi nous. Il traverse nos heures les plus sombres, il transfigure nos douleurs par amour, il est la goutte d'eau pure en tout amour, y compris les plus malheureux, les plus avilis. Ce qu'il rapporte au monde où il s'est mêlé, c'est l'inouï de chaque jour. Il nous interroge. Il provoque l'intime de l'intime de chacun de nous. On l'entend parfois, on fait la sourde oreille, puis on se ravise et on l'écoute. Il parle de la source, non pas de celle d'où l'on vient, mais de celle où l'on va. Au puits qui nous abreuve, aux côtés de la Samaritaine, là où l'on peut se désaltérer de la joie du oui, dans la tristesse du fini qui angoisse. Parce qu'il s'est fait chair, en lui se rassemble l'absolument concret et l'absolument concret de l'homme venu parmi nous, et l'absolument universel de celui qui s'est fait un avec le Père. En tant qu'absolument concret, la relation avec lui peut être toute personnelle, et en tant qu'absolument universel, la relation avec lui inclut potentiellement toutes les relations possibles et peut en conséquence être inconditionnelle et infinie. Être en Christ, comme nous y invite saint Paul, ne nous pousse pas à franchir la frontière qui nous sépare d'un être concret, d'un être particulier. Être en Christ, c'est être en ce qui est en même temps absolument concret et absolument universel. Il est le point où l'absolument concret et l'absolument universel s'identifient. De ces aveux que nous allons écouter, nous retiendrons qu'ils révèlent tous, à leur façon, chacun à leur façon, ils révèlent tous la remise de soi au Seigneur. Et l'on entendra « Mon Seigneur, et mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Je vous invite à percevoir la mystérieuse présence d'un vivant parmi nous ce soir. Et je vous laisse l'accueillir à l'écoute de ces textes et vous souhaite à toutes et à tous une très belle veillée au cloître.
Que serais-je sans toi ? de ce balbutiement. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qui fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer.
Cette juive hollandaise qui se rappelle de ses études de droit quand elle se retrouve dans un camp au nord des Pays-Bas, et elle rédige là, dans ce camp, de 1941 à 1943, un journal intime et d'admirables lettres poignantes qu'elle envoie à ses amis, auxquels elle décrit les persécutions massives subies par les juifs néerlandais en route vers les camps puis vers la mort. Au cours de ces années, Etty Hillesum se rapproche du christianisme. Et tout au long de sa vie, elle gardera jusqu'au bout un indéfectible amour de la vie et une foi inébranlable en l'homme. Envoyée au camp d'Auschwitz en septembre 1943, en même temps que toute sa famille, elle y meurt 3 mois plus tard, à 29 ans. Toutes ces lettres sont rassemblées dans un ouvrage que je vous recommande. Certains l'ont lu, « Une vie bouleversée ». C'est aux éditions du Seuil. Écoutons Etty Hillesum.
Ce matin, c'est dimanche. Quelque part en moi, ce jasmin continue de fleurir. Ce sont des temps d'effroi, mon Seigneur. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Seigneur. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Seigneur. Tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte. C'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes un jour. Il y a des gens qui cherchent à protéger leur propre corps et qui pourtant n'est plus que le réceptacle de 1000 angoisses et de 1000 haines. Ils disent, moi, je ne tomberai pas sous leurs griffes. Ils oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne tant qu'on est dans tes bras. Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette en moi, mon Seigneur. où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement, mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi, je resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. Derrière la maison, la pluie et la tempête des derniers jours ont ravagé le jasmin. Mais quelque part en moi, ce jasmin continue de fleurir, aussi exubérant, aussi tendre que par le passé. Et il répand ses effluves autour de ta demeure, mon Dieu. Tu vois comme je prends soin de toi. Je ne t'offre plus pas seulement mes larmes et mes tristes ressentiments en ce dimanche matin venteux et grisâtre. Je t'apporte même un jasmin odorant.
Par un matin froid d'octobre 1886, un homme est rentré dans une église du quartier Saint-Lazare à Paris. Il est courbé sur un prie-Dieu et répète comme une litanie, « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi savoir, faites que je vous connaisse. » Cet homme, c'est Charles de Foucauld. Il a intégré Saint-Cyr, puis l'école de cavalerie de Saumur, et il mène à Saumur une vie d'étudiant réputé noceur. Il s'affiche avec des demi-mondaines qu'il présente à tout le monde comme la vicomtesse de Foucauld, s'il vous plaît, bref, il fait scandale. Après avoir démissionné de l'armée en 1881, il apprend l'arabe, part au désert, et l'idée de Dieu commence à s'imposer peu à peu à lui. Ce matin de 1886, Charles interpelle l'abbé Huvelin, vicaire de l'église Saint-Augustin. « Je suis venu, dit-il, pour parler avec vous de Dieu. Mettez-vous à genoux et confessez-vous, lui rétorque l'abbé. » Charles obéit. Touché par la grâce, il veut tout abandonner, lit l'évangile, part en Terre Sainte, et de retour de Jérusalem, il fréquente un peu l'abbaye de Solesmes, puis il part en Syrie retrouver ce monde arabe qui l'a tant fasciné. Lui vient alors le projet de fonder une communauté qui mènerait une vie de pauvreté au milieu des musulmans comme témoignage d'amour du Christ pour tous. Il retourne dans le regard et le 1er décembre 1916, l'ermitage du frère Charles est attaqué par des rebelles Touareg. Il est fait prisonnier, son jeune gardien s'affole et l'abat d'une balle de revolver. On enterre le frère Charles de Foucauld dans le sable. Écoutons-le.
Ô mon Seigneur, voici donc cette divine pauvreté. Comme il faut que ce soit vous qui m'en instruisiez, vous l'avez tant aimé. Dans votre vie mortelle, vous avez fait d'elle votre compagne fidèle. Vous l'avez laissée en héritage à vos saints, à tous ceux qui veulent vous suivre, à tous ceux qui veulent être vos disciples. Vous l'avez enseignée par les exemples de toute votre vie. Vous l'avez glorifiée, béatifiée, proclamée nécessaire par vos paroles. Vous avez choisi pour parents de pauvres ouvriers. Vous êtes né dans une grotte servant d'étable. Vous avez été pauvre dans les travaux de votre enfance. Vos premiers adorateurs sont des bergers. À votre présentation au temple, on a offert le don des pauvres. Vous avez vécu 30 ans, pauvre ouvrier, dans ce Nazareth que j'ai le bonheur de fouler, où j'ai la joie de ramasser du fumier. Puis pendant votre vie publique, vous avez vécu d'aumône au milieu de pauvres pécheurs que vous aviez pris comme compagnons, sans une pierre pour poser votre tête. Sur le calvaire, vous avez été dépouillé de vos vêtements, votre seule possession, et les soldats les ont joués entre eux. Vous êtes mort nu, et vous avez été enseveli par aumône, par des étrangers. Bienheureux les pauvres. Mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre, celui qui, vous aimant de tout son cœur, ne pourra souffrir d'être plus riche que son bien-aimé.
Que nous allons écouter nous a laissé entre autres cette œuvre mémorable adapté au cinéma, que certains d'entre vous ont sans doute vu, Un singe en hiver. Avec Gabin et Belmondo, si je me souviens bien. Et puis les lecteurs du journal L'Équipe se souviendront d'Antoine Blondin, de ses 27 années de chronique sur le Tour de France. Blondin, vous savez peut-être, s'imbibait beaucoup, beaucoup. Et il définissait d'ailleurs son travail ainsi. On écrit avec un dictionnaire et une corbeille à papier, tout le reste n'est que littérature. Pour ses obsèques, en juin 91, tout Paris se rassemble devant l'église Saint-Germain-des-Prés pour rendre un dernier hommage à Antoine Blondin. Et le lendemain, le quotidien Libération en rendait compte en titrant « Même l'église était bourrée ». À son époque, je raconte cette petite histoire qui m'était racontée dernièrement, à son époque, on n'était pas très regardant sur les notes de frais. Celle de Blondin présentait ses dépenses d'hôtel, de restaurant, de voyage, avec parfois un libellé qui avait de quoi intriguer les comptables du journal. On lisait en effet, ça et là, SCP. Et la journaliste qui me l'a raconté s'en quitte un jour de la signification de ces lignes. Qu'entendez-vous, monsieur Blondin, par SCP ? Et Blondin, sans se troubler, lui rétorqua, si ça passe. Le quartier de Saint-Germain-des-Prés n'a pas oublié ces phrases. Qu'à 65 ans, Blondin écluse sa vie, il la bégaye comme Sagan, qui aimait à rappeler que tous les deux étaient timides et bègues. Et quand Blondin a passé la ligne d'arrivée, les sportifs ont tous été envahis par le sentiment d'être perdants. Écoutons Antoine Blondin.
C'était, cette fois, le mot de la fin, combien pertinent. Il faudra que nous songions à nous faire connaître. Dieu n'occupe pas chez nous la place qu'il mérite, parce que, ma femme et moi, nous n'honorons pas le même. Nous pensons pourtant, dans le secret de nos cœurs, qu'il doit s'agir de deux visages d'une puissance unique et que les prières que nous leur adressons en nous tournant le dos se rejoignent quelque part du côté du plafond. Par exemple, autour de la boule de gui que nous avons accrochée au premier réveillon de mon entrée ici pour appeler la joie sur notre foyer. Nous ne l'avons jamais remplacée et elle est devenue fragile et susceptible.
Aimer à n'en savoir que dire.
Nous allons écouter France Quéré, que nous avons déjà écouté ici au cloître. Je rappelle qu'elle est originaire des Cévennes. Cette théologienne protestante fut une remarquable exégète, spécialiste des pères de l'Église, qui s'intéressa par ailleurs aux questions éthiques, à la famille, à la place de la femme dans la société, au handicap. Sa pensée rigoureuse, vigoureuse, et libre, était apprécié de tous les membres du CCNE, du Comité Consultatif National d'Éthique, au sein duquel elle a travaillé 30 années durant sans interruption. Renvoyée en permanence à la question « qu'est-ce que l'homme ?», France Quéré fut entraînée d'abord vers la sociologie, puis la philosophie par effet secondaire. Sa vaste culture, son humour, un don pédagogique inné, une exceptionnelle ouverture aux autres lui valurent d'être invitée partout en France et à l'étranger pour des conférences, pour des sessions de recherche, etc. Toute l'œuvre de France Quéré que je vous recommande aura été un hymne à la culture, à l'intelligence, à l'affinement de la conscience. Elle nous a quittés en avril 1995, voilà donc 22 ans. Elle est décédée des conséquences d'une crise d'asthme, et elle manque toujours à beaucoup, et notamment au Comité Consultatif National d'Éthique. Nous l'écoutons.
Il importe, paraît-il, de savoir qui nous sommes. Ensuite, nous nous intéresserons aux autres. Infailliblement, la méthode pique du nez et s'embroche sur le culte du soi. Puisqu'elle ne vaut rien, renversons-la. Laissons nos yeux se remplir de présences inconnues. Menons nos pas hors de l'enclos. Adam n'est véritablement né que lorsque devant la femme, l'amour a ébloui son regard. Le moi s'éveille par la grâce du toit, commente joliment Gaston Bachelard. Quant aux disciples, ils sont partis sans se retourner, aspirés par un avenir qu'ils ignoraient et un maître dont ils ne connaissaient que le son de sa voix. Ils ont commencé par l'acte du plus grand dépouillement, un futur inconnu, un passé révoqué, un présent aventureux. Leur identité ne les suivait pas à cloche-pied, ils s'en moquaient. « Nous avons tout lâché pour toi », dira un jour Pierre, non sans fierté, à son maître. Ils ont tous eu le même commencement. Ils étaient engoncés dans leurs affaires. Un jour, une étrangeté les secoue. Ils ne savent ni qui, ni quoi. Ils se lèvent. C'est une voix qui appelle dans la nuit l'enfant Samuel. C'est un ange qui, devant Marie, met du temps à s'expliquer. C'est le Christ qui lance une brève parole sur le rivage. Et tous, de répondre dans la légèreté du vent, me voici. Thank you.
Pater Casper que nous allons écouter est un théologien et cardinal allemand, président émérite d'une quantité de conseils pontificaux. Ce grand théologien est un touche-à-tout qui pourrait passer pour un décathlonien. Il est membre de la Commission théologique internationale, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et j'en passe. Ce baroudeur a la fibre œcuménique. Il est considéré par beaucoup comme un théologien à la fois ouvert, solide et sûr, mais aussi novateur. C'est lui qui a demandé qu'en certaines circonstances, l'accès à l'Eucharistie puisse être ouvert à des divorcés remariés. C'est sous sa présidence que la Commission internationale du dialogue catholique-luthérien est parvenue à la signature d'un accord en 1999, après 30 ans de dialogue. Il n'a pas la langue dans sa poche, le cardinal Casper, comme en 2010, après une visite au Royaume-Uni, quand il déclara à la presse: lorsque vous atterrissez à l'aéroport d'Heathrow, parfois vous avez l'impression d'avoir atterri dans un pays du tiers-monde. Vous imaginez la réaction des Londoniens. Écoutons Walter Casper.
Jésus-Christ n'est pas seulement la définition ultime que Dieu donne de lui-même. Il est en même temps la définition ultime du monde et de l'homme. En lui se découvre dans sa totalité le sens de la réalité. Aucun être ne trouve son identité en se repliant sur un être en soi sans relation. L'identité concrète n'est possible que par la relation et le dépassement de soi dans un autre. L'amour, qui constitue réellement le milieu d'être de Jésus, est ainsi le lien qui unit et qui donne à chacun sa signification. Cette interprétation christologique de la réalité est évidemment en contradiction complète avec la mentalité qui règne aujourd'hui en Occident et qui détermine la vie sociale en faisant de l'intérêt personnel la préoccupation majeure de l'individu. Un commencement radicalement nouveau est nécessaire, tel que Jésus-Christ l'a apporté dans son amour pour Dieu et pour les hommes. Ce que nous avons à envisager, ce n'est pas une liberté émancipée, mais la liberté délivrée, libérée par la relation de maître et d'esclave, mais celle de père et de fils. Le fils recevant du père la liberté et étant posé libre dans son être propre. La filiation est l'essence de la conception chrétienne de l'homme. L'amour signifie l'engagement inconditionnel au service de la justice pour tous et l'accomplissement surabondant de la justice, la force d'adapter les exigences de la justice aux situations historiques changeantes et de renoncer parfois pour cela à des droits légitimement acquis. Jésus est ainsi le moteur de l'histoire. De la reconnaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu résulte une nouvelle vision de l'homme qui est destinée à la filiation, à la liberté qui se réalise dans l'amour.
Thank you.
Nous avons déjà écouté ici Françoise Malégeuris, qui est un écrivain belge et qui montre très tôt ses talents littéraires, puisqu'elle publie à l'âge de 16 ans ses premiers poèmes. Les lecteurs de Françoise Malégeuris apprécient sa créativité, mais aussi le ton à la fois lucide et plein d'humour. Son œuvre foisonnante et sans cesse renouvelée, c'est très tôt inscrite dans le nouveau roman qui a fasciné les milieux littéraires. Elle a aussi été la parolière de Marie-Paul Bell, vous vous souvenez peut-être de Marie-Paul Bell. Et Françoise Malégeuris s'est elle-même essayée à l'écriture d'un livret d'opéra qui attend toujours son heure. Elle a été membre du comité du prix Femina, puis de l'Académie Goncourt. Et depuis 20 ans, Françoise Malégeuris est membre de l'Académie royale belge de langue et de littérature française. Écoutons-la.
Pour moi, et parce que j'écris peut-être, Jésus-Christ est avant tout un homme qui parle. Qui parle avec les mots les plus simples, les comparaisons les plus banales, accessibles à tous, pour exprimer les vérités les plus profondes et parfois les plus mystérieuses. Un homme qui parle, un Dieu qui daigne se servir de la parole, habiter la parole. Et par cette signification infinie qu'il donne à des mots, limités et si simples, Jésus-Christ est pour moi le modèle de la signification infinie de nos moindres mots, de nos moindres gestes, si limités nous apparaissent-ils dans l'instant. Par là, par ce sens donné à notre vie la plus quotidienne, nous communions au mystère de l'incarnation. Et c'est cette incarnation qui fait l'unité d'une vie, parfois en apparence incohérente, dispersée, voire inefficace. Pour moi, l'incarnation de Jésus-Christ est le ciment qui unit toutes les aspirations, toutes les obligations d'une vie réellement chrétienne, et la vivifie jusque dans ses échecs.
Dieu t'a béni pour toujours.
1940, c'est la débâcle, et le compositeur Olivier Messiaen, que nous allons entendre maintenant, est arrêté. Emprisonné, il serre les mains sur son sac qui renferme des partitions. Il ne donnera pas son sac, Olivier Messiaen. L'Allemagne a donné à la culture beaucoup des pages qui sont dans son sac. Mais il n'y a plus alors de culture en Allemagne, il n'y a que de la propagande. Dans son cachot, Olivier Messiaen ferme les yeux pour que résonnent dans sa mémoire les grandes orgues de l'église de la Trinité dont il est le titulaire. Et machinalement, ses mains et ses pieds s'agitent, effleurant un clavier et un pédalier imaginaire. Au Stalag, on lui fournit quand même un crayon et du papier à musique pour qu'il puisse composer. Il a froid, il a faim, il a des hallucinations, mais un jour, il éprouve une grande joie quand il rencontre un violoniste, un violoncelliste et un clarinettiste. Il compose alors pour eux un trio, les répétitions se déroulent dans les toilettes du Stalag. Et peu à peu, ces chants musicaux s'étoffent jusqu'à ce célèbre chant des oiseaux de son Saint-François d'Assise qu'il interprétera après la guerre. Libéré en 1942, professeur au Conservatoire de Paris, il retrouve ses grandes orgues de la Trinité. « J'ai essayé, dira-t-il, j'ai essayé d'être un musicien chrétien et de chanter ma foi sans jamais y parvenir. » Tout de même, un chroniqueur des nouvelles littéraires a écrit que Messiaen appartient, je cite, à ce très petit nombre d'élus qui ont su voir et faire voir le Christ en musique. Écoutons Olivier Messiaen.
Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre voix. Jésus-Christ est le Fils de Dieu incarné. Jésus-Christ est Dieu. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son retour glorieux sont les seuls événements valables dans l'histoire des hommes sur la planète Terre. En nos jours de recherche scientifique passionnée, on peut rêver à perte de vue, dépasser en esprit notre petit système solaire est supposé, près des autres étoiles, des mondes habités par d'autres êtres intelligents qui seraient encore en attente d'un sauveur ou qui auraient déjà bénéficié, comme nous, d'une rédemption. Il reste que la planète Terre a été favorisée du don unique, l'incarnation du Verbe, l'irruption de l'invisible dans le visible, de l'éternel dans le temporel. Pour sortir de cet espace et de ce temps qui nous sont familiers, pour accéder à la résurrection et à une vie nouvelle dans d'autres dimensions, sans doute faut-il passer par la souffrance et la mort. Mais n'ont-ils pas quelque avant-goût de la vision de gloire, ceux qui, répondant aux paroles de la consécration, peuvent s'écrier dans toute la force de leur foi, mon Seigneur et mon Dieu.
Doux Jésus,
Nous allons écouter Olivier Clément. Olivier Clément est décédé en 2009. Il aura été l'un des théologiens les plus féconds et les plus estimés de l'orthodoxie en Occident. Alors, l'on reconnut non seulement de grands spirituels orthodoxes de son temps, tels le patriarche Athénagoras, mais aussi le pape Jean-Paul II, qui lui a confié en 1988 la rédaction des méditations lues par le pape lors du chemin de croix au Colisée. Olivier Clément a été l'ami du frère Roger de Thésée et du fondateur de la communauté Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Clément venait de l'agnosticisme quand il s'est converti à l'âge de 30 ans à peu près, après une longue recherche et la lecture des pères chrétiens d'Orient. Il a longtemps enseigné au lycée Louis le Grand à Paris, et puis il a naturellement été professeur à l'Institut Saint-Serge. Il a été membre 30 années durant du comité de dialogue théologique catholique orthodoxe. De tous les théologiens orthodoxes contemporains, il est sans doute celui qui a su se montrer le plus attentif aux interrogations de la modernité, auxquelles il a cherché à répondre à travers une réflexion puissante et poétique à la fois, une réflexion enracinée dans la tradition de l'Église et présente au monde d'aujourd'hui. Écoutons ce grand monsieur qu'est Olivier Clément.
Jésus n'est pas l'auteur du mal, il est le blessé du mal. Le Dieu que nous révèle Jésus et qu'il est un Dieu qui s'ouvre et qui se donne. En lui, l'unité n'ignore pas la respiration de l'altérité. Dieu est amour, dit saint Jean. En même temps, au-delà de tout, l'autre en l'un, le logos, le verbe, l'un en tout autre. Ainsi Jésus nous révèle que Dieu est la joie et la liberté de l'homme. C'est quelqu'un et il est universel. Toute l'histoire se déroule en lui. Toutes les religions le nomment sans que nous puissions comprendre. Tous les athéismes l'arrachent aux idoles qui le masquent. Universel, cosmique aussi. Pas un brin d'herbe qui ne pousse. Pas une étoile qui ne brille en lui. Eucharistie de la création. Les essences des choses sont son corps, celles du monde spirituel, son sang. Tout simplement aussi, Jésus est ce compagnon qui marche secrètement près de nous et, les soirs de détresse, pose sa main sur notre épaule. En même temps, il nous introduit au plus grand mystère, comme lorsqu'on marche au bord de la mer l'été et que le ciel et l'eau ne font plus qu'abîme de feu bleu, l'abîme du Père. En Jésus, ce grand transgresseur, le transgresseur de la mort, se réalise l'annonce du poète. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil.
reçois tout ce que j'ai.
Frédéric Hébrard, que nous allons écouter, est une voisine, elle est nîmoise. Fille de l'académicien André Chanson, née dans une famille d'écrivains, elle fréquente durant sa jeunesse des gens comme André Gide, Antoine de Saint-Exupéry, André Malraux. La guerre l'oblige à renoncer à une carrière de danseuse. Elle choisit alors le théâtre. Elle est lauréate du conservatoire en 1949. Et c'est au théâtre qu'elle va rencontrer Louis Velle, l'homme de sa vie, avec lequel notamment elle écrira le célèbre feuilleton télévisé « La demoiselle d'Avignon ». Voilà qui nous ramène à l'âge de bronze de la télévision. De famille protestante, elle a coécrit avec son mari, le catholique Louis Velle, l'ouvrage publié en 1999 qu'ils ont titré « La protestante et le catholique ». Et Frédéric Hébrard a naturellement fait du dialogue interreligieux son cheval de bataille. Écoutons-la.
J'ai beaucoup de chance. Voilà, 70 ans après ma venue au monde, je me fais chrétienne. Vous devinez que tout a été mûrement réfléchi. C'est venu tout doucement, comme le jour monte de la nuit et l'efface, marée caressante et irrésistible. Pagnol disait, l'idée de Jésus-Christ, c'est comme les oreillons. Ça s'attrape et ça va vite. Vous savez, les oreillons, je les ai attrapés tard. Mais vous avez raison. Ça va vite. Notre fille Catherine sera ma marraine. Paul, notre premier petit-fils, sera mon parrain. Cher Jésus, que vénèrent les musulmans, cher Jésus qui est juif, ce qui m'enchante, ne serait-ce que pour embêter les antisémites, je m'en vais me faire baptiser, parce que je suis convertie à Jésus. Jésus, il est le go-between entre la protestante que je suis et le catholique qu'est Louis, Louis Veille, mon mari. Jésus est notre trésor commun, notre bonheur indivise, l'ami suprême, celui qui m'a appris à cultiver les différences comme des fleurs pour les offrir au Père dans un bouquet.
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu.
Sainte Claire d'Assise, que nous allons clore cette veillée au cloître. Claire d'Assise, elle est née en 1193. Elle est issue d'une riche aristocratie italienne. Elle vit avec toute sa famille dans cette ville qui ne parle que de ce fameux François, fils d'un marchand de draps. Et un jour de mai 210, Claire s'en va écouter le prêche de ce François, qui a tout quitté, vous le savez, pour réaliser son idéal de vie évangélique. Claire est enthousiasmée par la prédication et elle veut rencontrer François et lui parler de son désir de suivre le Christ pauvre. Elle se montre d'ailleurs si charitable que les gens d'Assise la déclarent plus angélique qu'humaine. Un jour, des rameaux de 1212, alors qu'elle a 18 ans, Claire va rencontrer François, dans le secret. Et plus tard, réfugiée dans un couvent près de Bastia, elle doit faire face aux tentatives violentes de son père, qui veut la ramener à la maison, et la marier, peine perdue. Claire rejoint la communauté de San Damiano. François lui demandera d'en être l'abbesse, bien malgré elle, et une réelle amitié se noue entre la petite communauté et la petite ville d'Ombry. Claire s'est décidée vers la fin de sa vie à écrire une règle pour son couvent. Ce sera la première règle écrite par une femme. Et le 9 août 1253, le pape est de passage à Assise. Et il s'en va signer le précieux document. Deux jours plus tard, le 11 août, Claire est rassurée pour l'avenir de ses sœurs et elle s'en va rejoindre celui qu'elle avait servi toute sa vie. Écoutons Sainte Claire d'Assise.
Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour les très saintes plaies de tes mains, de tes pieds, de ton côté. Par ces plaies, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis contre toi, par pensée, par parole et par action, par négligence à ton service et par sensualité. Aie pitié de moi, tout ce qui te déplaît en moi, daigne le transformer. Donne-moi de vaincre tes ennemis. Délivre-moi de tous les dangers de la vie présente et future. Et rends-moi digne de la gloire de ton royaume. Par tes plaies, accorde-moi de faire pénitence pour mes péchés. Je t'en supplie, garde ta servante jour et nuit dans ta volonté. Arrache-moi au malheur de l'âme et du corps. Reçois mon âme au jour du jugement dans ta miséricorde et conduis-moi aux joies éternelles. Par ton côté ouvert, je t'en prie, Jésus, toi qui m'as purifié par le baptême de toutes les tâches originelles, délivre-moi de tout mal, passé, présent et futur. Par ton sang très précieux, encore offert et versé aujourd'hui sur toute la terre, par ta mort, donne-moi la grâce d'une foi droite, d'une espérance ferme et d'une charité parfaite. Que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Fortifie-moi dans le bien. Donne-moi une persévérance virile à ton service, afin que je puisse te plaire parfaitement, maintenant et toujours. Que les cinq très saintes plaies de Dieu soient un remède à mes blessures. Ô Christ, délivre-moi de mes péchés. Par tes cinq très saintes plaies, ô Christ, donne-nous la paix.
Good. prions ensemble avec ces paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Allez dans la paix du Christ.
Bienvenue
et bonne nuit.